La vie de Monsieur l'abbé Lapras. Il y a plusieurs manières d'aborder le sujet. Il y a beaucoup de choses à dire. Il faut que l'on se limite. Essayons d'aller à l'essentiel et j'ai pensé pour cette conférence diviser le sujet en trois parties. La première partie, l'homme. La seconde, le soldat. Et la troisième, le prêtre. Tout d'abord, l'aspect de l'homme. Pourquoi est-ce que je prends cette première division? Tout simplement parce qu'il ne faut pas penser que M. l'abbé Lapras était d'abord et avant tout un homme extraordinaire, spécial, et qu'il fallait regarder au loin. Au contraire, il était tout à fait abordable, bien qu'il avait quelques aspects qui étaient plus lumineux que d'autres. Bien souvent, on a une vision des choses, une vision des saints qui est un peu tronquée. On s'imagine toujours que les saints sont obligatoirement des hommes anormaux. S'ils ne planent pas un mètre au-dessus du sol, eh bien, ils ne sont pas abordables, ils ne sont plus des saints. Je n'ai pas le pouvoir de canoniser M. l'abbé Lapras. Néanmoins, on peut voir à travers sa vie certains aspects qui nous rapprochent de la sainteté. Et donc, sur la question de l'homme, M. l'abbé Lapras est né le 1er janvier 1959 à Genève, en Suisse. Ce jeune garçon avait un caractère particulier. Tout d'abord, dans son côté positif, c'était un garçon très magnanime. Il aimait les grandes choses. Les grandes choses pour Dieu avant tout. Il était un garçon aussi très courageux, prêt à se lancer dans toutes les épreuves possibles. Un homme fidèle, très fidèle comme ami, fidèle comme prêtre, fidèle en toutes choses, dans les moindres détails. Il aimait cette devise qu'il détenait d'abord de son père. Mon honneur s'appelle fidélité. Il était aussi un garçon intelligent qui avait la rigueur des choses. Il aimait connaître, il aimait étudier. Par-dessus toute chose, il était un garçon joyeux. Il enveloppait toute sa magnanimité, son courage, sa fidélité, son intelligence d'une certaine joie. Il avait une compagnie très agréable et pas du tout triste. D'autre part, on peut voir un aspect qui peut nous rassurer aussi. C'est une partie de son caractère qui était en quelque sorte un défaut. C'est un garçon colérique, essentiellement colérique. Et donc avec les difficultés que cela peut comporter, à savoir il était porté à la dispersion, à la précipitation. Il avait donc aussi à lutter contre certaines misères, certaines difficultés intérieures. Il n'avait ni la science infuse, ni la douceur infuse, non, loin de là. Il a dû combattre, combattre même d'une manière parfois très, très ardue. Et je passe un peu sur sa jeunesse, sa tendre jeunesse, pour arriver directement à certains points qui me sont plus connus, à savoir la période de l'école d'horlogerie qui a fait partie de ce temps où nous avons eu la grâce de le connaître. Et là, je voudrais relever certains faits particuliers de sa personne. Tout d'abord, en tant qu'étudiant, en tant qu'ami, il faut remarquer qu'il n'était pas toujours comme les autres dans les discussions. C'était un garçon qui avait toujours des buts dans ses discussions, dans ses conversations. Il voulait toujours atteindre certains objectifs. Il voulait toujours élever les âmes, les orienter vers des discussions saines, vers des discussions vraies. Il ne supportait pas le mensonge. Et lorsqu'il y avait un groupe de jeunes hommes qui étaient là, et dans ces milieux plutôt ouvriers, le vocabulaire va bon train, il aimait à essayer de relever un petit peu les âmes pour éviter qu'elles tombent dans cette médiocrité, dans la mièvrerie, dans la vulgarité surtout. Et il ne supportait pas la vulgarité. Alors dès qu'il entendait une conversation un peu curieuse, alors il s'approchait, il essayait d'élever un petit peu cette conversation, et dès qu'il voyait qu'il n'avait rien à faire, ou bien il avait une réplique assez sèche, ou bien alors il disparaissait. Il n'aimait pas les plaisanteries légères, il n'aimait pas la grossièreté. Et je me rappelle même de ce petit fait qu'il m'a rapporté plus tard. Il a essayé plusieurs fois de reprendre ses camarades au sujet des jurons. Et voyant que ses paroles ne suffisaient pas, il prit la résolution de noter le nombre de fois qu'il avait entendu jurer. Et le soir, lorsqu'il rentrait à la maison, eh bien, il priait le nombre de Je vous salue Marie qui correspondait au nombre de jurons. Et il m'a affirmé qu'à la fin de l'année, plus personne dans sa classe ne jurait. Il s'offrait par sa prière, il voulait absolument supprimer ses blasphèmes, ses jurons contre Dieu. Et par un tour de force, parce que certains jours Dieu sait si on en entendait, il a obtenu la grâce de ne plus entendre de jurons dans sa classe. C'était aussi un homme très actif. Non seulement il étudiait à l'école l'horlogerie, mais en plus de cette école, il suivait le collège du soir pour obtenir sa maturité. Il s'intéressait beaucoup à la politique non seulement nationale, mais internationale. Il épluchait les journaux pour voir un peu tout ce qui s'y passait. En plus de cela, bien sûr, il était dans sa famille. Il avait un grand lien familial, il aimait beaucoup les siens. Il avait le souci des siens, tout spécialement de ceux qui lui semblaient avoir le plus de difficultés. Difficultés non pas seulement matérielles, mais surtout difficultés diverses, spirituelles ou autres. Et en toute chose, que ce soit à l'école d'horlogerie, que ce soit au collège du soir, que ce soit en politique ou dans la famille, il aimait répandre, rechercher le beau, le vrai, le bien. Ça, c'était sa grande recherche. Tout ce qui était beau, il fallait le rechercher, l'admirer. Tout ce qui était vrai, il fallait y adhérer. Et tout ce qui était bien, il fallait le répandre. Et c'est de là qu'est parti d'ailleurs, plus tard, son désir de répandre ces grandes choses, comme le beau, le vrai, le bien, à travers cette maison de diffusion de livres qu'est Tradiffusion. Il avait le souci de la bonne lecture. La preuve en est que, grâce à Dieu, il avait une capacité de lecture, une intelligence supérieure, il faut le dire, si bien qu'en une année, il m'a affirmé avoir lu 600 livres pour que Tradiffusion ne vende que des livres dont on en connaisse vraiment le contenu. Bien vite, Monsieur l'abbé Lapra est tombé malade. Il a eu plusieurs misères dans sa vie, mais il en a eu de grandes, et je pense particulièrement à la maladie qu'on appelle la maladie d'Hodgkin. En plus de cela, il va subir toutes les conséquences des divers traitements de l'époque. Il y a pas mal de traitements dont on ne connaissait pas alors toutes les conséquences. Et il est à noter encore que M. l'abbé Lapra sera guéri à Lourdes, car après sa première attaque de la maladie d'Hodgkin, il décida un jour, sur les conseils de ses parents, de se rendre à Lourdes pour demander sa guérison. Mais il ne voulait pas se considérer vraiment comme malade. Il s'est dit, j'irai à Lourdes, oui, mais pas comme malade. Je partirai comme brancardier pour aider les malades. Chose qu'il a faite à plusieurs et plusieurs fois. J'ai eu des échos de diverses personnes qui ont connu ce jeune homme qui se dévouait tout en étant malade, se dévouait auprès des plus démunis, les plus malheureux. Et plusieurs m'ont rapporté combien il avait du zèle, combien il aimait s'occuper des pauvres qui languissaient dans leur misère physique. Et il aussi a remarqué que M. l'abbé Lapra était guéri à Lourdes. Plus tard, il aura une récidive de cette maladie d'Hodgkin, nous en reparlerons plus tard. Et dans cette récidive, il subit plus de 100 opérations, dont certaines, il faut le dire, sans narcose. Il a été près de 6 mois le ventre ouvert, car on ne pouvait pas toujours ouvrir, refermer. Alors les médecins avaient décidé de laisser l'ouverture bien large au niveau des intestins pour pouvoir intervenir dans les plus brefs délais. Et il faut bien préciser que chacune de ces opérations a toujours été faite avec son consentement. Les médecins lui posaient toujours la question d'ailleurs, surtout dans les circonstances très graves où certaines opérations risquaient fortement de le faire passer de l'autre côté, et c'est toujours donc avec son consentement qu'il a été opéré. Puisque l'on parle des hôpitaux et de ces maladies, J'ai recensé le nombre d'hôpitaux dans lesquels il est passé. À ma connaissance, bon, il doit y en avoir plus, mais en tout cas, à ma connaissance, il a visité 10 hôpitaux différents, ce qui n'est pas peu dans l'histoire d'un homme. D'autre part, il n'avait que 3 à 4 heures de sommeil par nuit, car il devait se lever plusieurs fois par nuit, chose qui était parfois très pénible et douloureuse, on peut s'imaginer. Il me disait qu'en moyenne, il se levait 7 fois par nuit. C'est une moyenne. Quand il dormait très bien, alors il me disait qu'il ne s'était levé que 3, voire 4 fois dans la nuit. Après les nuits un peu pénibles, il me disait « Bon, eh bien, j'ai passé ma nuit dans un fauteuil, car je me suis levé environ 14 ou 15 fois. » Et il ne faut pas penser qu'au milieu de ces douleurs, dont on a peine à s'imaginer, il avait perdu sa joie. Bien au contraire. Il restait toujours aussi aimablement joyeux et il gardait toujours une forme d'humour, même sur sa propre personne, sur sa maladie. Et il ne craignait pas de plaisanter un peu sur lui-même. Je ne m'étends pas plus longtemps sur cet aspect, à savoir cette partie de l'homme, mais je passe tout de suite au second point qui est l'aspect militaire. Pourquoi j'ai choisi ce thème-là? Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il gardait toujours dans son esprit cette partie des exercices spirituels de Saint Ignace, qui se situe dans les 5 jours après les confessions et qui s'intitule « L'appel du Christ-Roi ». Saint Ignace fait là précisément cette comparaison entre, d'une part, les hommes qui peuvent n'avoir ni foi ni loi et qui peuvent néanmoins se donner pour un chef militaire, pour une chose qui peut paraître absurde, et d'autre part, nous qui sommes chrétiens et qui devons donc pouvoir, avec la grâce de Dieu, faire au moins autant, sinon plus, dans le don total de soi. Il avait précisément en tête ces diverses qualités que pouvait avoir un soldat et les transposait dans sa vie spirituelle. Et je me rappelle de la première discussion que nous avons eue à l'école d'horlogerie au sujet de la vocation. C'est précisément ce que l'on rencontre dans un bon soldat, à savoir le don total de notre personne. Pouvoir se donner, cela avec quelque chose, une résonance particulière dans son esprit. Et regardez aussi les autres qualités du soldat, du bon soldat, que sont le courage, le désintéressement de sa personne et, comme je disais tout à l'heure, ce don total de soi-même, don total qui va jusqu'à la mort. Ce n'est pas une partie de nous-mêmes, une partie de notre vie, non, c'est toute notre vie. De même, cet aspect du sacrifice, on sacrifie tout pour le chef. Il a voulu tout sacrifier pour notre Seigneur Jésus-Christ. De même, l'aspect de l'obéissance, où il y a parfois des ordres qui sont donnés et que l'on ne comprend pas toujours. Et là, il y a une obéissance inconditionnelle qui est demandée, spécialement en temps de guerre. Et lui voulait justement avoir cette même rigueur dans sa vie spirituelle. C'est pourquoi il avait inscrit sur son image d'ordination ces deux mots de Saint Jean de la Croix, « Todo nada », tout ou rien. Tout pour Dieu, rien pour la nature. Il voulait absolument que le don de lui-même soit total. Non pas un peu, mais total. Il y a une anecdote sur cet esprit de sacrifice, de don total, de désintéressement de lui-même. D'ailleurs, il y a plusieurs faits que l'on peut relever, notamment lorsqu'il a eu une opération à vif qui a duré plusieurs heures, sans narcose, bien sûr. Il a demandé au médecin, après l'opération, de pouvoir se lever de sa table d'opération pour se déplacer dans le lit qui se trouvait juste à côté. Il a dit « Laissez-moi faire, je veux me lever tout seul ». Il avait le ventre ouvert, on lui a placé un sac de sable sur les intestins et puis il s'est levé, effectivement, au grand étonnement des médecins. Vous imaginez. Ensuite, il s'est déplacé dans le lit qui était juste à côté. Pourquoi a-t-il fait cela? D'abord, une victoire sur lui-même, de ne pas s'écouter, de ne pas écouter sa nature, mais aussi et surtout par esprit de sacrifice. Là encore, il disait « combien de soldats pouvaient encore continuer le combat alors qu'ils avaient un membre amputé, un membre malade, que sais-je, et ces gens continuaient le combat. Alors il n'y a pas de raison que moi je ne le continue pas. Une autre fois, pour mieux comprendre cet esprit militaire du courage, du désintéressement, du sacrifice, de l'obéissance, alors que je lui parlais de lui et que je me plaignais, j'allais dire, un peu à sa place, il m'a dit « Écoute, c'est bien simple. Un jour, j'ai signé un chèque en blanc au bon Dieu. Et le bon Dieu a marqué « maladie ». J'ai signé, je ne retirerai pas ma signature. » Et donc, il n'a pas demandé à un moment donné au Seigneur « Quel est le prix que vous allez me demander ?» Rien à faire. Il a voulu donner, il a signé « Seigneur, vous marquez ce que vous voulez. » D'autre part, de même que le soldat n'a pas le temps ou la possibilité de se soucier de ses propres blessures, Henri ne voulait pas se soucier non plus de sa propre maladie. Il n'avait qu'un seul souci, les autres. C'était la misère des autres, les problèmes, les difficultés d'autrui. C'est cela qui le préoccupait le plus. Il m'a dit plusieurs fois, « Si je commence à m'apitoyer sur moi-même, alors je suis perdu. » Et donc il n'y a qu'un seul moyen de sortir de soi-même, c'est de penser aux autres, de se donner pour les autres. Et parfois, lorsque j'allais le voir, on discutait un peu de lui-même, de sa santé, mais bien vite, la discussion tournait et puis se dirigeait automatiquement sur telle personne, sur telle âme, ou que sais-je. Il s'intéressait vraiment à toutes les personnes qu'il avait connues ou qui s'étaient recommandées à ses prières. Il demandait les nouvelles d'un tel ou de tel autre. Je me rappelle aussi encore cette petite anecdote pour montrer ce courage qu'il avait. C'était lorsqu'il eut sa récidive de la maladie d'Hodgkin. Il était en plein traitement de chimiothérapie. J'étais là, à côté de lui, et bien souvent, une simple présence lui suffisait. De temps en temps, un petit mot d'un côté ou de l'autre. Et puis, tout à coup, je le vois qui commence à verser des larmes à cause des souffrances, tellement elles étaient vives. Et il me dit... C'est trop pour ma nature. Alors il s'est arrêté et l'a poursuivi en me disant « Mais t'inquiète pas, je ne craque pas. On continue. » Vous voyez que sa nature regimbait et criait pour demander un peu de répit. Et là, c'est vrai que les souffrances étaient parfois très très vives, très grandes, mais peu importe, il fallait continuer. D'autre part, il avait de graves difficultés, étant donné qu'on lui avait coupé une grande partie de ses intestins. Au lieu des 7 mètres que l'on a normalement, il n'avait que 80 centimètres. Le transit était donc plus rapide, si bien qu'il avait une diarrhée perpétuelle, jour et nuit. C'était la diarrhée. Et je me rappelle, un beau matin, il avait passé une nuit effroyable, et je suis allé le voir tôt le matin pour savoir comment il allait. Il était assis dans son fauteuil et puis il me raconte sa nuit en quelques mots. Après, il s'arrête, il me dit « Tous ces soldats au Vietnam, alors qu'ils avaient la diarrhée, la dysenterie, que sais-je encore, eh bien, ils continuaient le combat. Eh bien, moi, je continuerai aussi. » Donc, il avait toujours certaines références, références de certains exemples de courage, de sacrifice chez les soldats. En disant une fois de plus, si eux ont été capables de faire cela, eh bien moi, pour la gloire de Dieu, pour le salut des âmes, non seulement je peux en faire autant, mais avec la grâce de Dieu, je dois pouvoir en faire plus. Pour la question de l'obéissance, il avait une certaine crainte que ses supérieurs, de par sa maladie, le déplacent dans un séminaire. Il avait cette crainte d'être isolé en quelque sorte, car sa vie... C'était l'apostolat, c'était le don pour les âmes, et il aimait voir les âmes qui venaient lui rendre visite, et il craignait justement qu'au séminaire, il ne puisse plus voir les personnes avec autant de facilité qu'il en a eu à l'hôpital. Alors c'était une grande crainte. Néanmoins, il me disait, peu importe même que les soldats ne choisissent pas leur lieu de combat, Eh bien, moi, je ne choisis pas non plus mon lieu de résidence. Peu importe, je ferai ce que mes supérieurs me diront. Mais cela ne l'empêchait pas de souffrir intérieurement et d'avoir cette crainte. Et je me rappelle quand il avait ce qu'on appelait les bons de sortie pour 24 heures ou 48 heures, quand il fallait alors rentrer de nouveau à l'hôpital, c'était toujours un serrement de cœur. Alors il me disait, eh bien voilà, je rentre à la caserne, on va reprendre le combat. Et quand il était prêt de monter dans une salle d'opération, il me disait, je pars au front, on verra s'ils auront ma peau. Et quand il revenait de l'opération, une des premières choses qu'il disait, ils ne m'ont pas eu, ils n'ont pas réussi à m'avoir. Voilà, je ne m'étends pas plus longtemps sur l'aspect du soldat, je voudrais m'arrêter plus longuement sur cet aspect qui nous intéresse davantage, l'aspect du prêtre. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer de résumer tant soit peu. Pour la question sacerdotale, il y a tout de même certaines anecdotes qui sont importantes et qui ont marqué sa vie et qu'il faut relever, notamment la question de sa vocation. Comment est née, si je puis dire, sa vocation, ou plutôt, quand a-t-il reçu son premier appel ? Cela paraîtra peut-être un peu paradoxal, mais son premier appel, il l'a eu dans un bistrot. À cette époque-là, je ne pourrais pas vous dire exactement la date, mais bien avant son séminaire, et il était avec une bande de copains dans un bistrot. Et m'a-t-il dit, pendant toute la soirée, ils ont parlé contre les curés, contre les religieuses, contre la religion, contre l'Église, et lui en tête. Lui faisait partie de ceux qui en savaient le plus et qui en disaient le plus contre les curés. Et chose curieuse, après avoir bien vomi sur la religion et ses ministres, il quitte ses amis, sort du bistrot, et juste à la sortie du bistrot, il entend une voix intérieure très forte, « C'est toi que je choisis ». C'était vraiment, m'a-t-il dit, quelque chose de très clair. Alors il a eu un instant de révolte intérieure, « Non, c'est pas possible, pas possible ». Et pourtant, le bon Dieu l'attendait. Et il l'attendait tout d'abord par sa très sainte mère, car peu de temps après, je ne me rappelle plus quelles étaient les circonstances, mais toujours est-il qu'il s'est retrouvé dans un lieu de pèlerinage où il a retrouvé la grâce de la prière. Ce lieu de pèlerinage, eh bien, c'est San Damiano. C'est vrai qu'il fut un temps où il ne pouvait quasiment plus prier. Je ne vais pas dire qu'il avait perdu la foi, mais enfin, il faisait tout pour tout mettre en doute. C'était très pénible et la prière, il l'avait quasiment abandonnée. Et c'est à San Damiano qu'il a reçu de nouveau cette grâce de la prière. Je passe un peu dans le temps. Il y a un autre fait qu'il faut relater, que je résumerai parce que c'est trop long à raconter dans les détails. Lorsque nous sommes descendus tous les deux à Rome, il y a eu de nouveau un appel de Dieu très clair. Nous sommes allés avec un prêtre, M. l'abbé Roch, sur le tombeau de Saint-Pilis, à Saint-Pierre de Rome, et là, M. l'abbé Roch a célébré la messe en l'honneur de Saint-Pilis. Et l'abbé Roch, juste avant la messe, a dit à M. l'abbé Lapra, à Henri, je dis la messe pour vous, et je veux que vous serviez la messe, et vous allez prier pour vous pendant cette messe. Notre cher Henri s'est exécuté et m'a-t-il dit, c'est là d'une manière particulière, devant le tombeau de Saint-Pédis, pendant la messe, en l'honneur de Saint-Pédis, qu'il a eu la confirmation de l'appel de Dieu, de sa vocation. Suite à ces quelques événements, à ces appels, il a recommencé à fréquenter d'une manière assidue, d'une manière très pieuse, le prieuré Saint-François de Sales à Genève. Il assistait tous les jours à la messe avant de partir à l'école d'horlogerie. Il prenait son vélo, il avait une bonne demi-heure de vélo pour assister à sa messe. Quel que soit le temps, quel que soit le jour, peu importe, il assistait à sa messe. Il fallait vraiment des choses graves pour qu'il ne s'y rende pas. Plus tard, nous avons fait une première retraite ensemble à Saint-Michel-en-Brenne, lorsque Saint-Michel-en-Brenne était encore une maison de retraite spirituelle de Saint-Ignace. Au retour, nous étions tous les deux dans le train et, chose curieuse, il n'y avait quasiment aucune parole qui s'échangeait entre nous deux. Nous étions tous les deux quelque peu plongés dans les rares ouvrages que nous avions pu acheter sur place. Et nous étions perdus dans ces lectures, très pensifs et méditatifs. Et au bout d'un certain temps, je voulais quand même en savoir plus. Alors je m'aventure avec une question. Alors, cette retraite, comment? Il m'a dit, eh bien tu sais, il y a beaucoup de choses qui vont changer dorénavant. Qu'est-ce qui allait changer? Il avait compris d'une manière particulière l'appel du Christ-Roi, qui l'appelait à quelque chose de plus parfait donc encore une fois, et il a eu là cette grâce de l'appel divin. Il était décidé de donner tout ce que le bon Dieu lui avait remis comme qualité entre ses mains. Il était disposé à tout mettre au service du Seigneur et pour le salut des âmes. Plus tard, il décidera, avec la grâce de Dieu, de rentrer au séminaire. Mais enfin, il y avait quelques hésitations de la part de ses parents à cause de sa maladie. Mais étant donné que, suite à cette maladie d'Hodgkin, il s'était rendu à Lourdes, alors ses parents avaient vu le miracle de sa guérison et s'étaient dit « À la grâce de Dieu, si au séminaire ils le prennent, ce sera vraiment un signe de la Providence. La Sainte Vierge ne fait pas les miracles à moitié. » Il y a eu alors, bien sûr, de nombreuses hésitations de la part de ses supérieurs de séminaire à cause, justement, de cette santé précaire. Et ce fut évidemment une grande épreuve pour lui, pour une âme généreuse qui voulait se donner et qui voulait se livrer au Seigneur. Et pourtant, le bon Dieu a voulu le purifier par là, par ses hésitations des supérieurs. Mais grâce à Dieu, ces derniers ont décidé de l'accepter au séminaire. La première année s'est passée sans événements extraordinaires. Il faut se rendre et se reporter à sa deuxième année, passée à Albano. Là, il a eu la grâce d'avoir sa chambre juste en face de la chapelle. Il lui suffisait de sortir de sa chambre, de passer une porte, et il était à la chapelle. Tellement heureux d'être au séminaire et à cette place, il passait une grande partie de ses nuits en prière. Il disait que cela ne lui coûtait pas, il était heureux d'être là, en prière, devant le Saint-Sacrement. Et il passait des nuits et des nuits, des heures et des heures, à prier, à méditer surtout. Mais il eut à un moment donné une grave épreuve. Une grave tentation. C'était la veille du 8 décembre, jour du premier engagement dans la fraternité sacerdotale Saint-Pilice. À ce moment-là, il eut de grandes tentations contre ses engagements. Il avait toutes les tentations possibles et imaginables, et même celle de sortir du séminaire. Et il s'est dit, il faut que je sois généreux, que je fasse le premier pas. Et le 8 décembre, sous les conseils de ses supérieurs et surtout de son directeur spirituel, il fit cet engagement. À ce moment-là, m'a-t-il dit, une paix vraiment extraordinaire, avec un désir de générosité, un désir de se donner pour les âmes, s'est installée en lui. Il faisait alors 2 à 3 heures d'oraison par jour, en plus de ses études. Durant ses oraisons, il méditait cet esprit de sacrifice et ce désir de se donner, d'où est sorti véritablement ce todo nada, tout ou rien. Pouvoir tout donner pour Dieu, rien pour la nature, tout pour les âmes. Et à ce sujet-là, je voudrais simplement lire un petit texte que j'ai tiré de ses notes, où en haut de la page, il écrit « Todo nada ». Et cela devait être le jour de Saint-Pédis, je crois, puisque le nom de Saint-Pédis est inscrit au-dessus. Et il écrit « À partir de ce jour, c'est-à-dire à partir de ce jour de l'ordination sacerdotale, tu commenceras à parcourir la voie du calvaire, qui est la seule par laquelle on arrive au mont Tabor. Tu comprendras alors par l'expérience que la vie du prêtre est une vie de sacrifice. Nous vivons malheureusement en des temps où l'on ne réserve aux prêtres que mésestime, haine, persécution. Mais nous devons nous en réjouir, parce que de là jaillit précisément cette force qui fait pâlir celui qui n'en connaît pas le secret et qui te surprendra toi-même lorsque tu la mettras en œuvre. Cette force prend sa source dans la volonté de sacrifice, embrasée dans la vision de la croix, et c'est cela l'empreinte sacerdotale. In summa fide, summum amor. Et il écrit aussi à un autre moment, lors d'une retraite de 30 jours, le 21 août 1985, « Seigneur, daignez agréer ce pauvre don de moi-même, avec toute ma faiblesse, mes imperfections et ma débile volonté. Acceptez cette offrande de mon corps par la souffrance, le mépris, le délaissement et l'incompréhension. Frappez ce pauvre petit être qui vous a tant offensé, mais qui ne désire dorénavant qu'agir par amour pour vous. » Recevez le don de mon sang jusqu'au sacrifice total pour le rachat des âmes, une vie de sacrifice, un amour, fiat, todo nada, deo gratias. C'est donc bien clair, il avait ce désir total, et cette fois-ci, il l'avait écrit. Mais lorsque l'on donne quelque chose à Dieu, eh bien Dieu répond. Après cet engagement dans la fraternité, il avait la certitude par des paroles intérieures, que le bon Dieu allait répondre à cette générosité. Il ne savait pas encore comment, mais bien vite, le bon Dieu s'est manifesté, puisque en janvier 1982, il fut hospitalisé d'urgence à Albano, près de Rome. Et là, son état est devenu très grave, puisqu'ils ont été obligés de le transporter d'urgence en avion jusqu'à Genève. Et là, il y aurait beaucoup de choses à dire. Et c'est là où il a subi la grande majorité de ses opérations à vif, où ils lui ont ouvert le ventre. Et il est resté ouvert pendant 6 mois couché sur le dos, comme crucifié, ne pouvant plus bouger, à peine tourner la tête. On peut s'imaginer les escarres, les humiliations et les difficultés que cela pouvait représenter, que sais-je encore. Et il me faut maintenant bien relaté un fait très particulier qui, je puis dire, a été le centre de sa vie et le moteur de toute l'acceptation de sa souffrance où le bon Dieu répondait véritablement à sa générosité. L'événement s'est passé entre le jeudi saint et le vendredi saint 1982. Il a donc subi plusieurs opérations jusqu'au jour du jeudi saint où les choses se sont véritablement aggravées. Je vois encore sa maman qui était dans la cour intérieure de l'oratoire Saint-Joseph et qui disait « Maintenant c'est fini, ce sont ses derniers instants. » Elle venait d'avoir le téléphone des médecins lui annonçant que c'était très grave, qu'il fallait absolument venir rapidement. Chose étonnante, quand les parents sont venus, il était mort. C'est-à-dire que tous les appareils avaient cessé de fonctionner, le cœur ne battait plus, la respiration avait disparu. Il avait déjà les signes de la mort, à savoir la couleur, la peau qui commençait à prendre une certaine couleur. Il avait ce que l'on appelle les poils de la mort, un poil qui pousse seulement à ce moment-là. Et évidemment, tous les préparatifs allaient commencer jusqu'au vendredi saint. Et il faut bien préciser, peut-être encore une chose, sur le jour du jeudi saint, ce soir-là, à l'oratoire Saint-Joseph, il y avait un prêtre, M. l'abbé Roch, qui s'était adressé à Mme Lapra en disant « Écoutez, je dois encore célébrer ma messe, je vais la célébrer pour Henri, en demandant à Dieu soit de le prendre ou bien tout simplement de nous le garder. » Nous avions quasiment la certitude qu'il devait mourir en tant que prêtre. Et là, il était encore tout simplement séminariste. Et donc, dans la nuit du jeudi au vendredi, il est décédé. On avait bien sûr averti Monseigneur, qui s'était déplacé le plus rapidement possible, et le lendemain, Monseigneur Lefebvre est arrivé dans la chambre d'Henri, et au moment où il est arrivé dans la chambre d'Henri, Henri s'est réveillé. C'est ici qu'on peut se poser la question, que s'est-il passé intérieurement pendant cette mort apparente? Car c'est une mort apparente, une mort clinique, mais pas une mort véritable. Moi, je vous rapporte la chose telle qu'il me l'a racontée lui-même. C'est là où le bon Dieu a voulu lui donner une grâce très spéciale, particulière et extraordinaire. Monsieur l'abbé Lapra m'a raconté le fait suivant. Il a vu en fait deux enterrements. Cela paraît paradoxal, mais vous allez comprendre. Il a vu son corps qui était dans l'oratoire Saint-Joseph exposé et tous les gens qui venaient lui rendre visite. Et la deuxième chose, il a vu ensuite Écône, le séminaire avec le caveau, qui à l'époque où cette mort apparente s'est passée n'existait pas encore. De même qu'il a vu le calvaire qui se trouve actuellement au-dessus du caveau et qui n'existait pas encore. Il était là. Et il était là, tout près du calvaire, quand tout d'un coup, la croix du calvaire est devenue lumineuse, brillante comme le soleil, et du côté de notre Seigneur Jésus-Christ, là où il a été percé par la lance, a jailli un flot de lumière qui est venu carrément enflammer tout le corps de M. l'abbé Lapra. Et au même moment, il a entendu un cri déchirant qui disait « Sitio, j'ai soif ». Il m'a dit qu'au moment où il a eu cette illumination, il a été complètement enflammé. C'est comme si on m'avait mis un fer rouge dans le ventre, me disait-il. À ce moment précis, il a eu cette certitude que le bon Dieu l'appelait pour souffrir en réparation de toute la crise de l'Église, pour la fraternité et pour les âmes. Sa mission était donc fixée et il en avait une certitude. Et au moment où il s'est réveillé, il a vu entrer Monseigneur dans sa chambre. Il souffrait terriblement dans son corps et dans son âme, il était marqué dans le plus profond de lui-même. Quant à la vision de ces deux enterrements, je n'ai compris le phénomène qu'après sa mort. Il est effectivement décédé à Genève, et puisqu'il était genevois, ancien paroissien de l'oratoire Saint-Joseph, devenu prêtre, les fidèles ont exprimé le désir de pouvoir le garder quelques heures afin de pouvoir prier à son chevet et de lui rendre les derniers honneurs avant de le voir partir en direction d'Écône, où les obsèques ont eu lieu et où il sera enterré selon ses désirs. Ce qui explique donc cette vision au sujet de son enterrement. Dans sa vie, il y avait des choses qui nous paraissaient invraisemblables, incompréhensibles, mais sous cette lumière-là, alors on comprenait un peu mieux. Revenons maintenant sur sa mission particulière reçue du ciel qui va se concrétiser, où l'on voit très bien ce que le bon Dieu lui demandait. Comment cela s'est-il concrétisé? Tout d'abord à travers ses diverses opérations à vif. Il me disait que lorsqu'il devait monter sur la table d'opération, en sachant très bien ce qui allait lui arriver, il me disait « Voilà, je dis au Seigneur, Seigneur, voici votre victime, et la table d'opération, c'est mon autel. » Et il montait sur la table d'opération en récitant les prières au bas de l'autel, « In tribo ad altare Dei ». Son séminaire s'est passé tant bien que mal, avec de nombreuses visites chez les médecins, à l'hôpital, de temps en temps une course d'urgence à l'hôpital parce qu'il y avait une occlusion intestinale, etc., etc. On pourrait en raconter encore longtemps, mais le temps passe et il faut que je donne quand même encore certains aspects de sa vie sacerdotale. Juste avant son ordination sacerdotale, les supérieurs ont hésité sur son ordination en disant « Est-ce qu'il va pouvoir exercer un ministère ?» C'était quand même un cas de conscience. Alors le supérieur du séminaire est allé voir un médecin traitant à Martigny et ce médecin lui a dit « Écoutez, monsieur l'abbé, si vous voulez vraiment l'ordonner, c'est maintenant ou jamais, parce qu'il a très peu de chances de vivre longtemps et même on pense qu'il va mourir encore cette année. » Cela s'est passé en 1986. Alors les supérieurs ont pris la décision de l'ordonner, et c'est ainsi qu'il a été ordonné le 27 juin 1986, en la fête de Notre-Dame du Perpétuel Secours, un vendredi. L'ordination s'est bien passée, bien que cela ait été une épreuve pour lui, une épreuve physique, bien sûr, mais accompagné d'une joie que, je crois, nous comprendrons seulement au ciel. Sa première nomination fut à Sierre, au prieuré du Sacré-Cœur, Et il y a quelques anecdotes que l'on peut raconter, notamment une qui est assez remarquable. Au début de sa nomination à Sierre, il souffrait énormément de calculs rénaux. Il me disait: j'ai la possibilité de faire des chapelets avec tous les calculs que j'ai. Et un jour, il était alité et souffrant à cause de ses calculs, et nous avions une discussion au sujet du prieuré. Et pendant cette conversation, nous avons parlé d'une personne, et nous avions un ardent désir de voir venir cette âme au prieuré et à la messe. Nous avions essayé plusieurs fois de discuter avec cette personne, mais il n'y avait rien à faire. Et nous savions que si cette personne se décidait à venir à la messe, eh bien, elle amenait toute sa famille. Durant la discussion, on se met à parler un tout petit peu de sa santé et je commence à me lamenter sur son sort. C'est alors qu'il me reprend très gravement et il me dit: écoute, ma souffrance, je ne la donne à personne et je t'interdis de parler ainsi, car je sais que par mes prières, par mes souffrances, je peux sauver les âmes. J'ai gardé le silence et nous avons poursuivi la discussion sur un autre sujet. Cela s'est achevé très brièvement après. C'est alors que je suis allé me coucher et je lui dis: si jamais il y a quoi que ce soit durant cette nuit, n'hésite pas à me réveiller. Le lendemain matin, je me réveille tranquillement vers les 6 heures. Je n'avais pas été réveillé, je me suis dit: bon, tout s'est bien passé. Je m'empresse d'aller le voir dans sa chambre. Il était assis dans un fauteuil, tout calme, et je dis: eh bien alors, cette nuit s'est bien passée? Et un peu plus, et tu ne me voyais pas. Ah bon, et que s'est-il passé? Bien, cette nuit, j'ai été à l'hôpital de Sierre, et puis je leur ai demandé de me faire une piqûre. Ils ont voulu me garder, mais enfin, je leur ai expliqué que le lendemain, donc aujourd'hui, c'était dimanche et que je devais dire ma messe. Alors, je leur ai demandé de me laisser aller, et voilà. Alors, je dis: mais enfin, écoute, tu aurais pu me réveiller, je t'aurais amené, c'était imprudent tout de même. Non, tu as besoin de ton sommeil. Et puis tu vois, ça s'est bien passé. Eh bien, vous me croirez ou vous ne me croirez pas, mais ce jour-là, je devais dire la messe à 10 heures le matin. Et lors du sermon, qui est-ce que je vois à la messe? La personne en question dont nous avions parlé la veille. Et depuis ce jour-là, cette personne est venue régulièrement et maintenant, il y a toute sa famille qui pratique. Mystère de la grâce, mystère de la souffrance, grâce que l'on n'obtient que par la souffrance. Plus tard, il y eut cette récidive de la maladie d'Hodgkin, et avant qu'il parte à l'hôpital, nous discutions ensemble et je lui demande: alors, qu'est-ce que tu en penses de cette maladie, de cette récidive? Il me répond: c'est clair, je m'en sortirai, mais je serai diminué. Il avait eu des paroles intérieures comme quoi il allait encore bien souffrir, beaucoup souffrir, mais il savait d'avance qu'il allait s'en sortir. Il a ajouté: il y a des moments où il faut savoir accepter, et c'est la chose la plus difficile. Depuis ce moment, il a eu ces trois mots importants pour toute sa vie: accepter, offrir, remercier. Accepter la volonté du bon Dieu que l'on ne comprend pas toujours avec notre vision trop courte, offrir pour le salut des âmes et remercier le bon Dieu pour toutes les grâces qu'il nous donne et qu'il donne aux âmes et à nous-mêmes. Je me rappelle encore un petit fait. Il était dans une maison pour les cancéreux de fin de vie. Et à un moment donné, en plus de son cancer, il a commencé à avoir des maux de tête absolument effroyables, causés par une méningite. Si bien que les médecins de cette maison ont pensé qu'il fallait mieux le transporter aux CHUV, à l'hôpital de Lausanne. L'infirmière qui s'est occupée du transfert m'a raconté le fait suivant. Elle avait commencé à préparer toutes ses affaires, et une fois que tout était prêt, elle a voulu déplacer M. l'abbé Laprat dans une civière pour le mettre dans l'ambulance. Et les mouvements qu'il a dû faire lui ont arraché un cri, tellement la douleur était vive. C'était vraiment le cri de la nature. Et après, il y a eu le cri de l'âme sacerdotale qui a dit: Seigneur, encore pour les âmes. Cette pauvre infirmière lui a dit: mais vous ne pensez pas que vous souffrez assez? Elle reçut en guise de réponse: Seigneur, encore pour les âmes. Il a voulu dépasser justement ce cri de la nature par un cri d'amour, cri de l'âme, et lorsque j'ai eu l'occasion de lui rendre visite au CHUV, bien souvent nous parlions de choses diverses. J'essayais de le faire parler un peu de sa santé, mais bien vite il esquivait pour parler des choses surnaturelles, pour parler des âmes. C'est là où il me disait: quand on connaît le prix d'une âme, eh bien le prix, c'est le sang de Jésus-Christ. Et suite à ces paroles, on peut lire aussi ce qu'il écrivait pour confirmer ce qu'il vient de dire. Voici un petit texte qu'il avait également écrit durant cette retraite de 30 jours. Seigneur, tous ces coups, vous les désiriez, vous les aimiez pour la valeur de notre rachat. Quel prix! Donnez-moi le courage de rester fidèle à mes résolutions de pénitence, que j'aime mes instruments comme vous vous aimiez ceux de votre supplice, embrassant croix et humiliation pour moi et moi pour vous. Notre-Dame, vous avez souffert un vrai martyr intérieur. Donnez-moi les sentiments de votre cœur immaculé, dont chaque battement correspondait aux souffrances de Jésus et aux coups des bourreaux. Judas, Malchus, Caïphe, Hérode, Pilate, tous auraient pu se convertir en voyant Jésus et mourir martyr avec lui. Nous aurions tant de saints de plus au ciel, mais hélas, avec eux, des millions d'âmes ne veulent pas ouvrir les yeux et profiter de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Ils n'en connaîtront que la justice infinie. Souci des âmes, oui, il connaissait le prix de ses âmes, à savoir le sang du Christ. Et donc, il voulait à son tour, en tant que prêtre, s'unir au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il me posait ces questions. Comment va tel séminariste? Comment va tel prêtre? Tel paroissien? Telle paroissienne? Souci des âmes. Il avait transformé sa vie, son milieu, en disant: eh bien voilà, ma chambre, c'est ma chapelle. Mon lit, c'est mon autel. Et pourtant, malgré ce qu'on peut imaginer, les souffrances physiques n'étaient pas les plus grandes souffrances pour lui. Les plus grandes souffrances, me disait-il, c'est de ne pas pouvoir dire ma messe. Quelle douleur, me disait-il en pleurant, ma messe. Je lui disais: mais ta messe, tu la célèbres maintenant dans ton lit? Il me dit: oui, c'est vrai, mais c'est pas la même victime. Cela n'a pas la même valeur. Oui, les souffrances les plus grandes chez lui, c'était de ne pas pouvoir célébrer le saint sacrifice. Il a eu également ses trous noirs, comme a connu sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Il me disait à certains moments qu'il ne pouvait plus prier, même dire un simple « Je vous salue Marie », ça lui était déjà trop, il ne pouvait plus. Alors des fois, on récitait à côté de lui une dizaine de chapelets, il s'unissait à ses prières tant bien que mal. Et un jour, je lui posais la question: « Est-ce que malgré tout, tu arrives quand même à méditer ?» Il me dit: « Oui, oui, un petit peu. » C'est alors que je lui demandais: « Mais qu'est-ce que tu médites ?»« Oh, des paroles très simples, ces paroles de sainte Madeleine de Pazzi. » Cette sainte qui au début ne supportait pas la souffrance et qui, à la fin de sa vie, avec l'ascension spirituelle, a pu dire: « Seigneur, faites-moi souffrir, mais pas mourir. » C'est une chose qu'il méditait souvent, souffrir, mais pas mourir. Dans ces moments, il suffisait de lui prononcer ce petit mot de notre Seigneur Jésus-Christ: « Sitio, j'ai soif. » Alors son visage s'illuminait en silence. Oui, il se rappelait les grands jours où Dieu l'avait appelé pour le grand sacrifice. Un jour, il me posa la question suivante: « Et si je meurs, quel serment tu vas faire ?» Je dis: « J'ai bien quelques idées, mais écoute, me dit-il, si un jour tu veux dire quelque chose, il te suffit de prendre la deuxième épître aux Corinthiens. » Il m'a indiqué justement les passages tout en me les expliquant. Et effectivement, lorsqu'on lit cela, c'est un peu le résumé de toute sa vie. Il m'a dit, si tu veux avoir un résumé de ma vie, si tu veux comprendre ma vie, lis cette deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 33, et chapitre 12, versets 1 à 10. Je lis quelques passages avec de petits commentaires qui ne sont en fait pas les miens, mais ceux d'Henri. Ah, je vais parler en homme qui est extravague. Je le suis plus qu'eux. Je le suis plus par les travaux, bien plus par les coups, infiniment plus par les emprisonnements. Emprisonnement, oui. Combien de fois il a été emprisonné dans l'hôpital. Combien de fois il me disait, ah, quand je vois tout le travail qu'il y a à faire et moi, je suis là dans l'hôpital, enfermé. Souvent, j'ai vu de près la mort. Et oui, combien de fois il est passé aux soins intensifs, maintes et maintes fois il est passé dans ces lieux, il en a vu mourir à gauche, à droite, il en a vu je ne sais pas combien. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups de fouet moins un. Et là aussi, si vous aviez pu voir son corps, il était lacéré, vraiment, on voyait toutes les traces du scalpel qui avait lacéré son corps. Quelque chose d'impressionnant, impressionnant. Toutes ces piqûres qu'il a eues, ces piqûres qui étaient ratées, qu'il fallait recommencer, les veines qui avaient sauté, cela faisait un hématome, que sais-je encore. Il avait tout d'un coup un bras presque paralysé, tellement on l'avait mal piqué, tous ces coups qu'il avait reçus, et chaque fois il disait... Eh bien voilà, telle piqûre, c'est pour tel séminariste... Telle souffrance pour tel prêtre. Ensuite, poursuit saint Paul, 3 fois j'ai été battu de verges, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Il m'a dit, là tu vois, j'ai passé aussi 1 nuit dans l'abîme, j'étais mort de manière apparente, mais physiquement, cliniquement, j'étais mort. Dans mes voyages sans nombre, j'ai été en danger sur les fleuves, en danger des brigands, en danger de la part de ceux de ma nation, en danger de la part des gentils, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les faux frères. Oui, parmi les faux frères, oui, combien de fois cela l'a fait souffrir, toutes ces trahisons de la part de certaines personnes. Tous ceux qui ont quitté la fraternité, tous ceux qui sont lancés dans les bras de ceux qui détruisent l'Église actuellement. Combien il a souffert pour ses âmes. Il avait des journées très pénibles et à la fin de la journée, parfois, quand j'allais le voir et je lui annonçais certaines nouvelles, pas toujours réjouissantes, il me disait « Eh bien maintenant je sais pourquoi j'ai souffert comme cela aujourd'hui. » Labeur. Peine, veilles nombreuses. Eh oui, les veilles nombreuses. Combien de nuits il n'a pas pu dormir, il a dû veiller. Faim, soif. Là encore, mon Dieu, l'épreuve de la soif. Parfois, il n'avait pas le droit de boire une seule goutte. Il fallait lui humecter juste le bout du doigt et passer le doigt humide sur ses lèvres juste pour qu'il puisse se rafraîchir tant soit peu. Il fallait passer une lavette sur le visage. Il n'avait pas le droit de boire. Le froid. Combien de fois il a eu froid, il a grelotté, il a eu la température qui descendait bien au-dessous de la température normale. La nudité, j'ai tout souffert, dit saint Paul. Et oui, je crois qu'on ne peut pas dire qu'il a manqué quelque chose à la souffrance de ce pauvre Henri. Outre ces choses qui sont du dehors, je suis assailli chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Et les soucis de tous ces prêtres, de tous ces prieurés, de toutes ces âmes, de tous ces prêtres modernistes, de tous ces défroqués, toutes ces familles qu'il a tant aimées, qu'il essayait de consoler ou de guider d'une manière ou d'une autre. Lorsqu'il ne pouvait plus agir ou parler, il offrait encore ses souffrances pour toutes ces âmes. Il avait ce souci. Qui est faible sans que je sois faible? Qui vient à tomber sans qu'un feu me dévore? Et combien de fois il était dévoré par la lâcheté et la faiblesse de certains. Il avait ce souci sacerdotal, paternel, fraternel. Eh bien, S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. Et ensuite, au chapitre 12, au verset 1 à 10, faut-il se glorifier? Cela n'est pas utile. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Oui, ces visions, révélations, il en a reçu de nombreuses. Il en a écrites quelques-unes lorsqu'il était aux soins intensifs. Je crois que c'est au mois de janvier ou février, cette année 93, où il était vraiment au bord de la mort. D'ailleurs, il était mort quelques instants et les infirmières ont juste pu faire repartir le cœur au bon moment. Et là, un jour, il a eu tout d'un coup un léger mieux. Et une parole intérieure lui a dit « Il faut absolument que tu écrives ». Alors il a pris son stylo, il a demandé une feuille aux infirmières, puis pendant quelques heures, puisqu'il était un peu mieux, il a commencé à écrire quelques-unes de ses grâces extraordinaires, alors qu'autrefois il ne le voulait pas. Mais enfin, grâce à Dieu, il les a écrites. Notamment ce fait que je vous ai raconté au sujet de sa mort apparente et notamment aussi de ses diverses révélations qu'il a eues sur sa vocation. Vocation sacerdotale essentiellement. Voilà, je ne poursuis pas directement ce texte, à nous de le lire, à nous de le méditer. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais enfin, dans un premier temps, je pense avoir donné quelques traits qui peuvent nous aider à le mieux connaître. Non seulement à mieux le connaître, mais aussi à prier pour lui, à suivre son exemple. Un exemple qui doit nous attirer vers une vie plus parfaite, vers une vie plus sainte, quel que soit notre état. Que nous soyons de la vie religieuse ou comme laïque, je pense que cet exemple doit nous attirer vers un désir plus grand d'aimer le bon Dieu, en remarquant que le bon Dieu est toujours plus généreux que chacune de nos âmes. Si nous donnons beaucoup, Dieu donne encore plus, et notre cher abbé a tout donné. Il a donné tout ce qu'il pouvait et le bon Dieu a été généreux. L'a récompensé ici-bas, certes, non pas d'une manière qui n'est pas selon notre vue, mais il est certain, et nous en avons eu la preuve maintes fois, que par son intercession, quand il était ici-bas, par sa prière, il a pu obtenir beaucoup de choses, beaucoup de grâces. Combien de fois on a vu des âmes qui étaient des épaves et qui sont revenus d'une manière totalement mystérieuse, miraculeuse, et combien d'âmes ont été réconfortées, touchées, justement par sa délicatesse, délicatesse d'âme, et aussi par le don de lui-même, qu'il a fait parfois pour des âmes qui étaient perdues. On pensait qu'il n'y avait plus rien à faire, qu'il n'y avait plus d'espoir. Eh bien, visiblement, le bon Dieu l'a récompensé en convertissant des âmes qu'on ignore, et que nous connaîtrons un jour au ciel. Alors, prions pour notre cher abbé. Je suis persuadé que lui priera pour nous. N'hésitons pas à le suivre, non pas seulement dans sa prière, mais aussi dans son sacrifice. Merci.
Pour réaliser le grand programme que notre Seigneur vous enseignez aujourd'hui le sermon sur la montagne, les béatitudes. Béatitude est quelque peu dénudant pour notre esprit humain, habitué à certains réflexes, habitué à certains enseignements, habitué aussi à la vie mondaine, car c'est le plus le plaisir, les joies, ce qui est apparent que ce qui est profond. Et ce qui est profond, c'est la vie de l'âme, c'est cette vie d'union à Dieu qui est nécessaire pour parvenir au ciel qui sera l'union éternelle avec Dieu, commencer ici-bas. Et bien pour parvenir à cette union, il faut mettre en pratique ce que notre Seigneur nous a donné. Et une manière négative de mettre en pratique ce que notre Seigneur nous enseigne, c'est la manière de respecter les 10 commandements. Ne pas faire ceci, ne pas faire cela, adorer Dieu. Mais enfin, notre Seigneur nous a enseigné une manière plus forte depuis qu'il est venu, plus pressante, plus délicate également. Ce sont les conseils évangéliques et ses béatitudes. Délicatesse du cœur de notre Seigneur, ses penchants sur les hommes et leur donnant les moyens d'obtenir ce bonheur. Car nous le savons, nous sommes appelés au bonheur éternel. Tous les hommes le savent que nous sommes appelés au bonheur. Mais aujourd'hui, le bonheur est plutôt recherché sur terre, et pas recherché au ciel. Eh bien, quand nous nous tournons vers l'Évangile, quand nous nous tournons vers notre Seigneur, eh bien, notre Seigneur nous donne un spectacle du monde que nous connaissons bien, car nous nous retrouvons tous dans ces béatitudes d'un côté ou de l'autre, des fois cumulant plusieurs béatitudes. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, dans notre vie, eu des difficultés qui nous ont appelés à ne rien comprendre, d'avoir les pauvres en esprit. On ne comprend pas la situation dans laquelle on est. Et nous sommes tous dans ce cas. Comment comprendre la crise de l'Église? C'est un grand mystère, mais nous adorons la providence de notre Seigneur. Notre Seigneur gouverne tout le monde, gouverne l'Église par des hommes fragiles, des hommes pécheurs. Mais néanmoins, notre Seigneur, grand mystère. Nous avons tous aussi connu ces moments difficiles qui nous font nous révolter. Notre Seigneur nous appelle à la douceur. Nous avons connu les moments difficiles. Nous avons pleuré. Nous avons connu tous ces moments où il est difficile de pardonner. Bienheureux, miséricordieux. Nous avons connu aussi les moments où nous aurions aimé peut-être, sous le coup de la colère, peut-être nous venger. Bienheureux, pacifique. Bienheureux, ceux qui font la paix. Et de ceux qui donnent la paix autour d'eux, non pas la paix du monde, bien sûr, la paix de notre Seigneur, qui arrive à communiquer un petit peu du bien qu'il possède dans leur âme, qu'il a reçu par la grâce. Bienheureux ceux-là. Mais voilà ce que vous enseigne notre Seigneur. Vous êtes fait pour le bonheur, non pas le bonheur terrestre, le bonheur du ciel. Si vous l'obteniez, heureux les pauvres d'esprit, heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent. Soit la justice, non pas la justice humaine, la justice divine. Ceux qui voient le mal, ceux qui voient toutes les révoltes contre Dieu, et bien heureux ceux qui ont soif de cette justice, et rendre à Dieu ce qui est à Dieu, ceux qui veulent absolument remettre les églises au milieu des villages, et remettre la messe dans les églises. Heureux tout cela. Bien heureux aujourd'hui. Prolonge la terre de sermon, mais méditez notre Seigneur. Méditez les paroles de notre Seigneur à travers sa béatitude. Il y en a qui recherchent les recettes du bonheur ici, ou là, je le voyant, je ne sais quoi, dans tous les livres possibles imaginables. Il n'y en a pas d'autre que notre Seigneur vous a donné. Mais béatitude, bienheureux ceux qui écouteront notre Seigneur. Car notre Seigneur nous le dit à la fin, réjouissez-vous et tressaillez de joie, parce que si vous mettez tout cela en pratique, votre récompense sera grande dans les cieux. C'est-à-dire cette union à Dieu, selon la plénitude qui est capable de la plénitude de notre âme. Car chacun est différent, chacun est appelé dans le corps mystique à une fonction particulière, à aimer notre Seigneur de manière particulière, à une capacité d'aimer Dieu plus ou moins grande, de comprendre Dieu, comprendre tant qu'on peut, enfin d'approcher Dieu. Mais chacun doit faire le plus possible, selon la lumière qu'il a reçue, depuis le simple comme le connaisseur, jusqu'à celui qui est professeur d'université, jusqu'au plus sage, jusqu'au gouvernant, jusqu'aux évêques, jusqu'au pape. Chacun selon sa capacité, chacun selon ses connaissances, selon ses instructions. Celui qui l'a reçu, eh bien, de faire le maximum pour essayer de comprendre notre Seigneur, de comprendre le message de notre Seigneur et de mettre en pratique. Chacun selon son degré, chacun selon ses filières. Alors, notre Seigneur, eh bien, notre Seigneur nous donnera notre récompense. Notre récompense en fonction de nos efforts, en fonction de sa miséricorde qui sera pour nous. Alors soyons généreux, méditons les paroles de notre Seigneur, essayons de les comprendre.